Bonjour à tous, je vais parler aussi en français du coup, mais le diaporama est en anglais. Je remercie les organisateurs pour cette conférence. Je vais vous parler donc aujourd'hui des usages de la forêt au sein des peuples fénicks. Donc, je vais vous présenter un peu ce que sont ces peuples fénicks et je vais vous expliquer notre démarche ethnographique que nous avons menée sur ces usages. Donc, je m'appelle Anatole Nanteau, je suis doctorant au CNRS en anthropologie et sciences politiques, et j'ai préparé cette communication avec une collègue, Christina Liracheva, qui est également doctorante en anthropologie à l'INALCO, et qui n'a malheureusement pas pu être présente aujourd'hui. Donc, pour commencer ma présentation, je vais vous présenter brièvement la méthodologie que nous avons employée, et ensuite nous allons présenter brièvement les peuples féniques et la forêt afférente, et enfin décrypter les différents usages de la forêt qui sont pratiqués, et également les changements qui peuvent les affecter, et enfin quelles stratégies sont mises en place par les communautés locales pour faire face à ces changements. Donc, il s'agit d'une recherche ethnographique avec une phase assez importante de terrain qui est menée depuis 2016 sur certains territoires. Il s'agit d'une enquête comparative entre différentes communautés ethniques. Notre principal outil est un outil classique de l'ethnographie, c'est celui des entretiens, notamment semi-directifs, mais parfois aussi des récits de vie auprès de certaines personnes. Et nous pratiquons également l'observation participante ou la participation observante selon les degrés d'implication avec les communautés locales en allant avec eux dans la forêt observer leurs usages. Nous avons également un travail assez conséquent sur certains fonds d'archives, notamment des archives orales, des archives d'anciennes campagnes ethnographiques de terrain qui ont été menées sur ces territoires auprès des communautés dès les années 1900, voire fin 1800. Et enfin, nous travaillons aussi beaucoup sur les collections des musées qui s'intéressent à ces questions, donc quelques musées nationaux, notamment en Estonie, en Russie et en Finlande, mais également une multitude de musées locaux. Alors, les peuples féniques, donc c'est dans la petite bulle que j'ai encadrée sur la carte, c'est un ensemble de communautés ethniques globalement minoritaires, excepté les Finnois et les Estoniens, qui composent la branche occidentale des communautés finno-ougriennes qui occupent la partie nord-ouest de la Russie. Alors, généralement, les communautés finno-ougriennes les plus connues sont les Sam et les Nénets en Russie. Mais comme vous pouvez le constater, il y a également beaucoup d'autres minorités moins connues. Et notamment, donc nous travaillons beaucoup sur le pourtour du golfe de Finlande, entre la Finlande, la Russie, l'Estonie et la Lettonie, auprès de différentes minorités. Alors, ces communautés fenniques sont généralement, entretiennent un rapport très proche à la nature et habitent majoritairement dans des zones rurales, soit en habitat isolé, soit dans des villages forestiers. Donc là, c'est un exemple d'une petite localité au cœur de la forêt de Carélie, donc le village de Menga en Russie, qui, comme vous pouvez le voir, comporte quelques petites maisons, quelques dizaines de maisons, et donc est établi en plein milieu de la forêt. Le prochain village est à peu près à une vingtaine de kilomètres. Donc l'ensemble de ces communautés habitent dans un biome assez particulier qui est celui de la forêt boréale, qu'on connaît tous de nom. Donc c'est une forêt qui est établie entre la forêt tempérée plus au sud et au nord les zones de toundra avec les steppes arctiques. C'est une forêt majoritairement composée de conifères adaptées au temps froid et également quelques feuillus, notamment comme les bouleaux ou les sorbiers. Alors cette forêt boréale, en Russie elle est appelée taïga, elle est également un habitat assez important pour des poissons, comme le saumon, énormément d'animaux chassables, quelques insectes également, des mollusques, des légumes, des fruits, des plantes, etc. Et également des champignons, des mousses et des lichens. Alors ces communautés fenniques ont établi de très forts liens avec la nature depuis de très nombreuses années, passant notamment par une cosmogonie particulière, notamment liée aux questions forestières, avec énormément d'éléments structurants de la cosmogonie liés aux arbres, aux rivières, aux marais, aux roches, etc. Alors là j'ai pris l'exemple aussi d'une photo, on est sur une île en Estonie, où il y a une petite communauté de 600 personnes qui habitent. Donc juste derrière la photo, là on ne la voit pas, mais il y a une grosse pierre qui est la plus grosse pierre de l'île, au cœur de la forêt, qui fait l'objet de différentes croyances. Et les habitants viennent accrocher, donc là on peut les distinguer notamment sur la droite, des petits fils qui symbolisent différentes choses sur les arbres autour de cette pierre. Cette cosmogonie, elle est aussi basée sur des épopées, des sagas, notamment le Kalevala, qui est très célèbre en Finlande et en Russie, ou son équivalent estonien, le Kalevipoeg. Donc c'est l'histoire du fils de Calef qui va, dans l'imaginaire fénique, construire les communautés féniques autour de la Baltique via des grandes épopées qui laissent une place très importante à la nature et notamment à la forêt. Donc là, c'est l'exemple d'un tableau qui représente une partie de cette épopée, c'est l'arrivée de Calef sur les côtes de la Baltique en bateau. Les peuples fenniques ont des représentations très particulières de la forêt boréale, et notamment pour eux, la forêt boréale est considérée comme quelque chose de vivant, donc c'est un acteur non humain vivant. En langue carélienne, par exemple, on appelle ça Mekan Isandi. Et cet objet vivant, il est à la fois respecté et craint. Donc du coup, il y a beaucoup de légendes autour des forêts, donc notamment sur des créatures qui la peuplent, etc. Mais également sur la capacité de cette forêt vivante à observer, écouter, voir, sentir tout ce que vous faites au sein de cette forêt. Donc là, je vous ai mis quelques petits extraits d'entretien pour vous rendre compte. Donc ce sont des exemples de choses qui nous ont été dites sur la forêt, de représentations qu'ont certaines communautés fenniques à l'encontre des espaces forestiers. Donc pour eux, c'est à la fois quelque chose de respecté, d'intéressant, mais également de craint. Et généralement, quand on va en forêt, on ne le fait pas n'importe comment, il faut être assez sérieux, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il y a également toute une symbolique au sein de ces communautés finno-ugriennes occidentales qui concerne la forêt, qui est un intéressant mélange entre différentes idéologies, pour beaucoup issues de religions monothéistes contemporaines, notamment l'orthodoxie en Russie et Estonie, mais également le protestantisme en Finlande et en Lettonie, mais également de très fortes influences encore aujourd'hui des anciens systèmes polythéistes qu'on retrouvait autour de la Scandinavie et de la Baltique, voire du paganisme assez ancien, et aujourd'hui des formes qu'on pourrait qualifier d'animistes. Les peuples fenniques ont également des traditions assez importantes au sein de cette forêt, et cela a permis, au fil des siècles, la construction d'un véritable socio-écosystème entre ces communautés fenniques et les forêts en présence. Et ces socio-écosystèmes sont évidemment de façon très forte corrélés à cette relation justement entre nature et culture, entre les peuples fenniques et la forêt dans cette région. Alors, je vais vous présenter maintenant quelques exemples d'usage traditionnel de la forêt au sein des communautés fenniques. Donc tout d'abord le bois en tant que matériau de construction évidemment. Donc des constructions notamment de bâtiments dédiés à la religion, comme ici un pogost, donc c'est une forme d'église avec un mur d'enceinte autour pour la protéger, qu'on retrouve beaucoup dans ces régions-là, mais également les traditionnelles maisons d'habitation, donc les izbas et les datchas, qui sont les maisons de vacances, les maisons de campagne qu'on a généralement à proximité d'une forêt. Le bois est évidemment aussi utilisé comme matériau pour des objets de plus petite taille, donc notamment pour les engins de pêche, comme ici avec une nasse en carélie, mais également la construction de très nombreux éléments, donc ici par exemple un puits au sein d'une église. Il sert également de base à l'artisanat et à l'art, notamment l'art populaire local, ici avec des exemples d'un tableau d'icônes au sein d'une église, et également de l'artisanat divers et varié, notamment en utilisant les écorces. L'écorce de bouleau est très très utilisée dans cette région, puisqu'elle est très très malléable et permet la construction, la fabrication de nombreux objets, notamment des boîtes. Naturellement, le bois est aussi la première source énergétique pour le chauffage dans cette région-là. Ici, on peut voir des exemples de bois coupés et conservés pour la saison hivernale au sein de ces territoires. Donc, chaque année, il y a tout un système assez cérémonial de coupe du bois dès le printemps pour faire les provisions en vue de l'hiver. La forêt est également un écosystème qui permet différentes pratiques, donc notamment la chasse, la pêche, l'élevage d'abeilles, qui est très popularisé, notamment sur la partie russe de ces territoires, et également la récolte de sèbes, notamment la sèbe de bouleau, qui elle aussi, aux premières montées de sèbes du printemps, est un élément très recherché par les populations féniques. Il y a évidemment aussi tout un système de récolte, de collecte de différentes plantes et différents éléments au sein de ces forêts de la part des communautés fniques. Donc que ce soit les champignons, les baies, différents fruits, des racines, etc. Donc des phases de collecte vraiment très présentes. C'est vraiment pas rare sur le bord d'une route de voir quelqu'un qui se stationne pour descendre ramasser dans les forêts. Et également donc des ventes de ces collectes dans les villes. Il y a également des pratiques ethnopharmacologiques assez importantes à l'encontre de différentes plantes et d'herbes sauvages qui sont donc collectées pour différents usages pour soigner différents maux. Les forêts au sein de ces communautés féniques font aussi partie intégrante du patrimoine culturel immatériel et cela est notamment très visible au sein de différentes thématiques, notamment l'art, mais aussi de façon plus concrète au sein de la toponymie par exemple sur des cartes ou au sein de la taxonomie liée à différentes espèces. Alors ces forêts, en tant que patrimoine culturel immatériel pour les communautés locales, sont très intéressantes à étudier, notamment sous le prisme du concept de savoirs écologiques locaux ou traditionnels, qui a été développé par Tim Ingold ou Huntington, plus tardivement Geertz. Et aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui est de plus en plus amené, ces questions de savoirs écologiques traditionnels, notamment ces savoirs écologiques traditionnels peuvent conduire à des meilleures gestions basées sur les communautés locales qui connaissent du coup très bien leur territoire, donc à la fois les habitats, les espèces en présence, les cycles, etc. Cet écosystème spécifique, il fait aussi partie de l'espace mémoriel global des populations fainiques, notamment pour tout ce qui va être lié à la mort. Donc les cimetières au sein des communautés fainiques sont généralement établis au sein des forêts, très éloigné du village, on met une barrière entre le village et le cimetière, une barrière naturelle qui va être la forêt, et en même temps les esprits humains qui vont du coup être mis en tombe au sein de ces cimetières vont pouvoir bénéficier d'une proximité très certaine avec la forêt en elle-même et tout ce qui la compose. Donc souvent hein, on a 5-6 km à parcourir entre les villages et les cimetières. Autre intérêt mémoriel, donc là c'est sur la gauche un cimetière à bateaux. Donc ça date de l'époque soviétique. On est en Lettonie au sein d'une communauté fainique qui s'appelle les Lives, qui était une communauté de pêcheurs qui habitaient dans des forêts côtières et qui ont été contraints par les soviétiques d'arrêter leur pratique de pêche puisqu'ils permettaient à des opposants de fuir vers la Suède. Et donc les soviétiques ont obligé l'ensemble des pêcheurs à détruire leurs bateaux et à les mettre loin du littoral dans des forêts. Donc aujourd'hui encore, on a des cimetières à bateaux assez éloignés du littoral, au cœur des forêts, qui représentent là aussi des espaces mémoriels très importants localement. Alors ces socio-écosystèmes, ils sont concernés par de nombreux changements contemporains, des changements socio-économiques notamment, avec par exemple l'intégration communautaire en Lettonie, Estonie et Finlande, mais également des grands projets, des grandes infrastructures, des aménagements, notamment l'exploitation pétrolière et ce qui en découle, l'aménagement de pipelines ou d'espaces portuaires, comme par exemple ici, on est en Russie, au sud du golfe de Finlande, à Ustuga, qui va devenir le troisième port de Saint-Pétersbourg, où on n'a pas hésité à détruire complètement la forêt littorale pour construire un immense terminal gazier. Et donc on assiste évidemment à un phénomène de fragmentation très important des espaces forestiers, et donc toutes les problématiques qui en découlent. Ces changements socio-économiques atteignent aussi évidemment les minorités ethniques en présence, avec un déclin démographique, un certain dénigrement également à l'encontre des minorités ethniques, notamment en Russie, l'arrêt de la transmission intergénérationnelle des langues et indirectement la disparition de certaines langues et des savoirs associés, notamment des savoirs écologiques locaux qui étaient connus uniquement dans certaines langues. Enfin, on a des changements politiques, notamment liés à la fin de l'Union soviétique dans la région, donc du coup un phénomène de décollectivisation des terres, la fin des kolkhozes et des sovkhozes forestiers, et une privatisation, une enclosure des forêts très importante, avec des rôles également de différents acteurs, notamment les oligarques russes, qui peuvent avoir des rôles notamment sur des pratiques de chasse assez abusives au sein des forêts. Et enfin, des questions militaires liées à la post-guerre froide entre la Russie et l'OTAN, qui peuvent des fois interdire certaines zones d'accès. Et enfin, des changements qui vont être d'ordre environnementaux, évidemment, réchauffement climatique et tout ce qui en découle, avec des effets importants sur les cascades trophiques, l'explosion de certaines zoonoses localement, notamment dans les forêts, avec la boréliose de Lyme liée à la prolifération de tiques, et également d'autres problématiques là, qui vont être liées aux mesures de protection de l'environnement, avec des systèmes de gestion uniquement basés sur l'écosystème et non pas sur le sociosystème, qui vont interdire certains usages au sein des forêts, comme par exemple le brûlis. Alors pour terminer, quelques perspectives. Donc c'est une recherche qui est encore en cours aujourd'hui, donc je ne vous présente pas des résultats très définis, mais on a pu constater certains points communs pendant cette enquête comparative. Mais par contre, certaines différences de stratégie d'adaptation au sein des pays, avec notamment la cogestion adaptative qui est désormais très pratiquée en Finlande, la protection de minorités ethniques fenniques plutôt dans les pays baltes, le développement local par les acteurs locaux qui est assez plébiscité à l'échelle des quatre pays, avec beaucoup d'ONG et d'associations locales qui sont très investies. Et enfin, un concept nouveau qui a émergé, c'est celui d'ethno-expertise qui a émergé au sein de la Russie, notamment avec l'article de Golovnov, qui, pendant les procédures d'évaluation d'impact environnemental, lors des nouveaux grands projets d'exploitation, notamment pétrolière, a proposé également de faire une évaluation, une étude d'impact à l'encontre des populations ethniques minoritaires, ce qu'il a appelé l'ethno-expertise. Donc, comme vous le constatez, on a encore un travail assez long à mener pour atteindre une gestion soutenable de socio-écosystèmes, puisqu'on a beaucoup, beaucoup de problématiques différentes. Et notamment, la principale, c'est celle d'un cadre réglementaire qui est différent entre chacun des quatre pays. Mais à l'inverse, on a énormément d'usages traditionnels de cet environnement forestier qui sont pratiqués par les populations fenniques de façon commune et transfrontalière à l'échelle de ces territoires. Je vous remercie.